Oui, comme vous voyez, j'ai préparé une partie de 1 Timothée. Vivre dans la famille de Dieu. C'est un peu le thème de Timothée. Et dans cette introduction des premiers versets, on voit que c'est une lettre que Paul il a écrite à un des collaborateurs. Ici, c'est Timothée. Et donc, puisque Timothée était un responsable d'église, on les appelle aussi ces lettres paté-pastorales. Donc, ils sont destinés à des gens qui ont des responsabilités dans l'église. Mais ça va bien sûr largement au-delà. En fait, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est pour le peuple de Dieu qui ont des responsabilités dès que quelqu'un entre dans le peuple de Dieu. Il peut être, là c'était le nom significatif prêtre, mais il est tout simplement un disciple, quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. Et dans ce début de cette lettre, on voit Paul, il invite à la vigilance. Une vigilance qui est importante, mais pas seulement dans le sens négatif, on verra ça. Paul était 3 ans à Éphèse et il a enseigné à Éphèse ensemble, certainement en partie avec Timothée. Et on pourrait se dire, mais après Paul, ben, ça va être la crème. Tout roule, une église avec un tel enseignement, ça doit rouler, ça doit être facile. Mais malheureusement, on voit qu'il y a plein d'éléments dans cette église, alors que Paul a enseigné dans cette église pendant un certain temps. Le meilleur enseignement n'est pas une protection totale. Timothée, il est originaire de l'Asie mineure. Il a un père grec, une mère israélite qui s'appelle Eunice. Elle est une femme pieuse et il a aussi une grand-mère, Loïs, qui sont devenues chrétiennes, tous les deux. Toutes les deux. Et ils ont instruit Timothée déjà avant que Paul fasse connaissance de lui dans les Écritures, certainement en tant que juif. Et avec Paul, on va voir, il ira encore plus loin. Timothée est devenu un disciple, un compagnon d'œuvre même de Paul et il l'a laissé à Éphèse. À un moment donné, Paul est allé plus loin pour qu'il accompagne encore cette église. On suppose qu'il a été écrit entre 63 et 66 après Jésus-Christ, ce qui veut dire à peu près 30 ans après la mort de Jésus. Voilà, j'ai déjà dit le lieu. Le premier grand point que je veux retenir, Paul invite Timothée à la vigilance. En fait, Paul transmet dans cette lettre plein de conseils. Comment il faut se comporter dans l'église, dans le culte, pour les personnes âgées, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les esclaves. Il parle du choix des collaborateurs et des responsables d'église. Et bien sûr, il aborde dans tout ça aussi des questions de doctrine. Et il écrit une sorte d'ordre de mission pour Timothée et aussi pour légitimer son ministère. Et on va lire les premiers versets, les versets 1 à 3 d'un Timothée. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc on voit, Paul, il a laissé Timothée là avec des idées précises. Mais d'abord, Paul se présente. Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Donc, il a cette autorité qu'il a reçue de Dieu pour annoncer l'évangile, pour fonder des églises et pour placer aussi des personnes responsables dans les églises. C'est une lettre qui est, en le lisant, on le voit très bien, est destinée à toute l'Église, qu'elle soit lue à toute l'Église. Et on a donc un rappel que Paul, il fait à Timothée. Il lui rappelle, comme j'ai dit, qu'il est apôtre de Christ, sur ordre de Dieu. Donc, Paul n'est pas un apôtre autoproclamé, mais il a eu ce mandat directement de Dieu, du Dieu sauveur. Ce Dieu sauveur, bien sûr, il fait référence à Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité et qui a été élevé au ciel. Donc, Jésus-Christ qui est notre espérance. Et on peut donc voir dans ces tout premiers versets tout un package important et dense qui inclut l'évangile et qui inclut l'intention de Dieu. On pourrait donc dire que pour Timothée, Paul veut dire « Sois vigilant, mais sache que l'Église dépend de Dieu. » Et tu peux te rappeler que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est un important et bon départ pour Timothée de se rappeler ça. Et c'est aussi un bon départ pour chaque personne qui prend une responsabilité dans l'Église. Rappelons-nous que c'est l'œuvre de Dieu. Pour Timothée, on peut aller plus loin et voir que Paul est son père spirituel. Timothée veut dire celui que Dieu honore. Et en même temps, ici, on voit que c'est Paul qui lui donne une place. Et il a certainement trouvé la foi par Paul, parce que c'est écrit qu'il est mon enfant légitime dans la foi. Donc, c'est comme les conseils d'un père, d'un bon père à son fils. Et peut-être il y a des souvenirs chez vous, des bons conseils des parents. Pour certains, c'est déjà un peu loin, comme pour moi. Mais Timothée, il a appris beaucoup de choses à côté de Paul. Et c'est comme s'il lui disait, sois vigilant. N'oublie pas les conseils de ton père. On pourrait y inclure aussi les conseils de la mère et de la grand-mère. N'est-ce pas? On a des conseils, des bons conseils qui peuvent nous donner une bonne orientation pour la vie. Bien sûr, on a des hommes, on peut aussi donner des mauvais conseils. Mais ici, il s'agit des conseils de la parole, donc ce sont des bons conseils. On voit aussi que tout comme Paul, il a été appelé et il a été confirmé. Timothée a été confirmé. Et quand on lit au verset 18, je crois que je ne l'ai pas affiché, on peut lire « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés. » Donc, Timothée a reçu une confirmation par une prophétie. Les prophéties ne sont donc pas seulement des choses où Dieu a annoncé, a d'avance annoncé des choses d'avenir, mais c'est aussi quelque chose qui a une parole à un moment précis, à un moment qui est important. Et Timothée a été ainsi confirmé dans le ministère. Il a reçu, un peu comme Paul, une révélation. On va lire ces versets. Quand Paul a reçu cela, et ça se réfère à Actes chapitre 13, verset 2, « Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc, ici, c'est le Saint-Esprit qui dit une parole directe. Là, ça ne passe pas par un homme, mais ils ont reçu cet ordre de Dieu. Donc, l'Église doit savoir, Timothée n'est pas un autoproclamé pasteur ou ce qu'on... un responsable, mais il a été reconnu. Et il doit être vigilant de ne pas mettre en doute sa qualification du ministère quand des difficultés vont arriver ou quand il sera remis en question. Et Timothée a donc reçu un mandat par Paul. Pas juste quelques conseils, un objectif précis. À un moment donné, peut-être, Timothée aurait eu envie de chercher un poste plus facile, de chercher une autre église où ça semble plus facile de travailler. Donc, Paul l'invite à être vigilant, de persévérer dans le mandat reçu, sans esquiver la situation ou les personnes difficiles. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Le Seigneur nous a donné des mandats d'être des témoins là où il nous a placés. Peut-être dans la famille, peut-être dans un travail, peut-être dans la parenté. Et parfois, ce serait facile d'esquiver ce mandat. Et ne rien dire ou fuir l'endroit, mais Dieu nous aide à persévérer dans le mandat qu'on a reçu. Un deuxième point que j'aimerais relever, une vigilance concernant l'enseignement. Au verset 5, nous pouvons lire le but de cette instruction. C'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de l'enseignement, c'est un amour pur. Le but de l'enseignement, c'est donc pas de remplir la tête ou d'avoir des diplômes. Et je trouve que ça rend l'objectif des études publiques, du culte, ça peut le changer. Parce qu'on pense, on vient souvent pour savoir plus, pour toutes sortes de choses, pour avoir un amour pur. Vous savez, je pense comme moi que l'amour peut être affreusement égoïste. Parfois, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est quand même affiché comme tel. On le voit, je crois aussi, dans les féminicides et dans les divorces, lorsque le beau sentiment d'autrefois est tourné dans une haine, certainement à cause d'un amour égoïste, toute la bonté qu'on a voulu donner à l'autre est étouffé par l'égoïsme. C'est le contraire du cœur pur. Le cœur pur protège de l'égoïsme et de la domination, de la dureté du cœur, de la révolte. Mais un tel amour, est-ce qu'il peut naître par des discours, par de belles paroles? Par un grand savoir, en imitant quelqu'un, l'apôtre Pierre l'a essayé. Il a dit qu'il va suivre le Seigneur jusqu'au bout, il va même mourir avec lui. Et il s'est cassé le nez. C'était l'échec par ses propres forces. Non, par les propres forces, l'amour pur ne peut pas naître dans nos cœurs. Pas plus que la conscience pure ou la foi pure. L'amour pur a une triple source. J'aimerais le relever. D'abord, un cœur pur. Donc, l'amour pur est lié à un cœur pur. Un cœur pur, c'est que Dieu a éclairé le cœur, a dévoilé les impuretés, et après les avoir dévoilées, il dirige le regard vers la repentance. On peut dire oui, ça c'est l'état de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Et alors l'amour peut naître, l'amour pur peut naître dans ce cœur purifié et pardonné par la grâce offerte par Jésus-Christ. Un cœur touché par l'amour de Dieu peut aimer d'un amour pur. Mais il faut rester vigilant sur ce cœur pur. Ce n'est pas la religion, la philosophie ou les efforts humains qui peuvent le produire. C'est seulement Dieu qui peut produire ce cœur pur et cet amour pur. Et c'est là que nous devons le chercher. La deuxième source d'un amour pur, je crois, c'est la conscience pure. Notre texte en parle. Si la conscience fonctionne, elle discerne le bien et le mal et aide à agir dans la bonne direction. Il faut être vigilant pour que la conscience reste pure. Tolérer le mal serait le contraire. Pour bien fonctionner, elle doit être connectée au Dieu saint et à la sainte parole, à la Bible, qui est incomparable et sans faute. Donc cette connexion de la conscience pure et du cœur pur pour avoir un amour pur. Et un troisième élément, une foi sans hypocrisie. Ça veut dire une foi qui n'est pas que apparence. Elle n'est pas déconnectée de l'amour et de la grâce et de la miséricorde. La paix de la foi est la conséquence de la grâce reçue par Jésus-Christ. Et tout ça, on peut le voir, est donné, offert par Dieu. La foi sans hypocrisie ne peut pas être méritée, fabriquée ou atteinte par une certaine spiritualité par soi-même. On doit rester vigilant au sujet de notre foi. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'espérance du chrétien fondée en Christ. C'est comme un lien constant que le chrétien est là avec Christ. C'est un peu comme le GPS qui doit être en lien constant avec plusieurs satellites. Le chrétien peut être comme ça, lié au Christ. La foi regarde à Jésus-Christ, est nourrie par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde et sa paix. Spurgeon a dit qu'il y a trois éléments qui constituent la foi du chrétien. Je les relève. Le premier élément, c'est la connaissance. Pour que la foi puisse être là et être solide, il faut connaître certains éléments. Il faut connaître que Dieu existe, reconnaître cela. Reconnaître qu'il est incarné en Jésus-Christ, qui était sans péché, qui est mort pour porter notre châtiment et qui offre le pardon. Sa résurrection et son ascension prouvent cette vérité. La connaissance est donc liée à une personne. Un deuxième élément que Spurgeon relève, c'est qu'il faut croire que Jésus-Christ a été incarné. Croire ses paroles, croire que le salut est offert, qu'il y a un seul chemin, qu'il est notre sauveur, qu'il est vivant et qu'il tient toutes les promesses. Et un troisième élément, c'est engager ma confiance. Ces trois éléments, donc la connaissance, de croire en Christ et ma confiance en Christ, constituent la foi. Pour que je puisse être solidement ancré et lui confier la direction de ma vie. Pour être sûr qu'il est digne de confiance. En Hébreux 11, on peut lire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Troisièmement, la troisième raison de vigilance, c'est pour ne pas s'occuper d'éléments accessoires ou faux, mais de ce qui est important. Il y avait depuis toujours des éléments spectaculaires. Aujourd'hui, on peut en trouver des centaines de milliers sur les nets. À l'époque de Timothée, c'était un peu plus limité, mais il y avait des mythes, il y avait des généalogies. Et on pourrait enseigner autre chose. Au verset 4, 3 et 4, « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attarder à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la loi. À l'époque, il y avait, ça on le sait de l'histoire, un livre appelé le livre des Jubilés. En fait, c'était une interprétation allégorique de l'Ancien Testament agrémentée par des histoires. Et les écoles rabbiniques et aussi les écoles grecques aimaient bien les histoires, et des histoires fabuleuses surtout. Et ça, tout ça lié avec des discours éloquents et avec une belle rhétorique, ça c'était le top du top à l'époque. Paul invite Timothée à être vigilant, de ne pas délaisser la parole ni la sobriété, au risque de dévier de l'objectif. Deuxièmement, diriger, danger d'adapter et d'accompagner, non, d'accommoder, pardon, le discours dans l'Église aux tendances actuelles. Donc chaque élément doit rester à sa place. Au verset 7, on voit, il se pose en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets par lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Je crois que je l'ai affiché, je crois. Ouais. Donc chaque élément est important et il y a bien sûr des bonnes ambitions, mais s'ils sont liés sur la bonne base. Et cette bonne base, je l'ai déjà citée, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une conscience pure et d'une foi sincère. Il y en a qui veulent enseigner sans comprendre. Il faut apprendre à savoir discerner ce que le verset veut dire, ce que l'auteur du verset voulait dire. Donc, Paul invite Timothée à être vigilant. Est-ce que ce passage qui est cité parle-t-il de la thématique pour laquelle il est utilisé? Pour laisser justement chaque verset à sa bonne place. Et une vigilance aussi par rapport à la loi. Je ne vais pas citer maintenant tous les versets qui parlent de la loi à partir du verset 8, mais Paul en cite cela. Et puis, Paul aborde aussi la question de... la raison de la vigilance, une troisième, il y a le risque de s'éloigner de la foi véritable. Il y a donc le danger d'une foi discours qui est déconnectée de la vie sans répercussion au quotidien. La conscience est bien si elle est connectée à Dieu. Et si elle est écartée, ben, la relation avec Dieu est affectée aussi. Bien sûr, tout comme la foi et l'amour. Et Paul, il cite deux personnes dans ce texte. Versets 18 à 20. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hymnée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Deux personnes que Paul dit, ils ont fait naufrage de la foi. Un naufrage n'est pas forcément la fin. Paul en a vécu quatre naufrages et il a survécu. Mais Paul dit quand même clairement, chaque pas dans la fausse direction éloignait davantage. Et si ces personnes poursuivent le mauvais chemin, ça sera de plus en plus difficile de revenir. Les deux personnes ont négligé la conscience et l'avertissement. Il y a le risque qu'en plus du naufrage, il y aura noyade. Et je crois que c'est ça qu'il veut exprimer quand il dit que j'ai livré à Satan. Il les a déclarés déconnectés de Dieu, mais pas pour les condamner, pour avec l'objectif qu'un jour ils puissent revenir, qu'ils puissent réaliser qu'ils sont déconnectés. Et je crois que c'est ça aussi l'objectif de l'amour. Et ainsi, il invite Tim à garder le cap de l'enseignement, qui est cet amour pur, un amour qui veut ramener les gens, un amour qui voit aussi les dangers qu'il peut y avoir dans l'Église ou dans l'enseignement ou dans le comportement de certaines personnes. Je vais conclure. Si le danger est aussi réel et concerne tous ceux qui ne produisent pas un amour pur, un cœur pur, une foi sincère, je crois que la vigilance est de mise aussi pour nous. Et je crois que la lettre de Timothée est d'actualité pour nous. Je crois que ce danger est réel de s'éloigner de l'amour pur. Et on a toujours à nouveau besoin de nous tourner vers Dieu pour qu'il nous remplisse de cet amour pur. Je vous laisse une question. Que vous pouvez amener avec vous et peut-être en discuter avec deux, trois à la maison ou aussi à l'église, pourquoi pas. Dans quel domaine une vigilance particulière s'impose à toi-même? Je crois qu'on a tous des domaines où on sait qu'on doit être vigilant et que le Seigneur nous aide à les discerner et à régulièrement en faire un sujet de prière et de venir à Dieu avec cela et pour cela. J'aimerais encore prier.